Bonsoir, merci d'être présent à cette séance de Relire avec. Certains d'entre vous, je pense, connaissent un peu la formule. L'idée était, dans une collaboration, bien entendu, avec la Bibliothèque publique d'information, notamment avec Catherine Blangonnet, qui dirige le service audiovisuel, de proposer des films sur des écrivains. Et l'idée est venue de demander à des personnalités, écrivains ou philosophes ou historiens, de parler de leur lecture et de choisir un auteur. Donc Clément Rosset, à ma grande, je lui redisais tout à l'heure, à mon grand plaisir et à ma grande surprise, parce que quand je lui avais proposé de venir parler, de venir relire un auteur, j'avais imaginé qu'il dirait Jules Verne. Non, pas du tout, il a dit Robert Pinget. Donc Clément Rosset, je pense que vous êtes venu en connaissance de cause et que vous savez qu'il a récemment publié « La nuit de mai » et « L'école du réel » aux éditions de Minuit.
Bon, je n'ai pas vraiment choisi Pinget. Enfin, je l'aurais choisi de toute façon. Mais comme il s'est trouvé que j'avais été convié par France 2... Philippe le fait pour parler de Pinget, et au dernier moment, il m'a dit « Oh non, non, Pinget embête tout le monde, vous avez parlé d'autre chose. » Alors je me suis retrouvé avec quelques notes que j'avais griffonnées sur Pinget, et quand Marianne Alphand m'a demandé « ça marche, vous l'entendez ?» de parler de Pinget, de parler de quelque chose, j'ouvrais la bouche pour dire « mais il n'y a personne dont j'ai envie de parler ». Et je me suis brusquement rappelé que j'avais dans mes tiroirs des notes sur Pinget, un peu inutilisées, quoi, et qui c'était l'occasion ou jamais de les faire fructifier. Enfin, et c'est ainsi que je me retrouve à parler de Pinget. Mais il est vrai, cela dit, que si j'avais choisi Pinget pour la France 2 qui n'en a pas voulu, c'est que j'avais... je suis un grand admirateur de Pinget. Et même, comme l'a dit Marianne, il se trouve que, bizarrement, je ne le cite, je crois, jamais. Je me demande si je l'ai cité une seule fois. Alors qu'il y a des auteurs qui, justement, comme Hergé, plutôt, ou Jules Verne, que je cite volontiers, mais ce sont des bizarreries. Certains auteurs qu'on admire infiniment toute sa vie ne se souviennent jamais sur le parcours de la phrase ou du paragraphe qu'on est en train d'écrire. Et c'est ainsi que j'ai jamais, peut-être, cité Robert Pinget tout en l'admirant infiniment. Et je dirais même que... il occupe, à mon avis, une place qui n'est absolument pas reconnue aujourd'hui, mais qui est, à mon avis, une place tout à fait éminente dans ce qui a été un petit peu, ce qui a représenté un peu le nœud de l'intérêt, tout au moins public ou médiatique, pour la littérature française telle qu'on l'a conçue pendant la fin du siècle passé, la fin du siècle passé, c'est-à-dire tout ce qui relevait un peu du nouveau roman, disons de Minuit, et des éditions de Minuit qui étaient impliquées dans cette aventure littéraire, et puis aussi de ce qu'on a appelé la littérature de l'absurde, que ce soit Beckett, que ce soit d'autres, dans tout cela, il me semble que l'exemple littéraire le plus éminent, ou parmi les, il y a toujours le débat avec Beckett, évidemment, qui est sur les rangs, mais qu'il occupe une place vraiment de tout premier rang, si ce n'est pas de la première place. Et il est de fait, je le sais d'ailleurs par les ventes aux éditions de Minuit, il est de fait que c'est un auteur qui est méconnu, qui traverse un purgatoire long, mais les purgatoires peuvent être longs, mais qui même de son vivant n'a jamais eu la reconnaissance chose à laquelle il avait droit, à mon avis. Et il a, quand on parle, quand les manuels de français, les Lagarde et Michard de notre époque, ou les manuels étrangers parlant de littérature française, consacrés à la littérature française, parlent de cette période, de ce courant de la littérature française, Pinget, quand il vient dans la liste, vient toujours très tard, et à mon avis, bien après des noms qui peuvent être estimables, qui peuvent être dus par certains, par beaucoup, mais qui, à mon avis, ne valent pas Pinget. Bon, j'en reviendrai peut-être un peu plus tard sur mon coup de foudre pour Pinget. Pour le moment, je voudrais vous dire seulement que la raison qui est invoquée généralement pour expliquer... parce qu'il y a des gens qui mettent Pinget au premier plan, bien entendu. Mais pour expliquer sa relégation un peu au second rang, la raison qui est généralement invoquée, qui est d'ailleurs celle que trouvent les dictionnaires, parce qu'on parle tout de même de Pinget dans les dictionnaires, enfin dans certains du moins, et qu'il a souffert de l'ombre de son ami Samuel Beckett, précisément, parce que vous savez probablement que, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par Pinget, vous savez certainement mieux que moi, que Pinget et Beckett étaient d'assez grands amis, tout en ayant une vie en fait très différente, et bon, l'un vivait plutôt que, enfin ils vivaient l'un et l'autre comme deux ermites, mais d'un type très différent, n'est-ce pas, j'insiste pas sur là-dessus, mais en tout cas ils étaient amis et se sont rendus des services mutuels, puisque je n'ai plus les faits en mémoire, mais je suis tout à fait certain que tant Pinget que Beckett ont œuvré pour l'un pour l'autre. L'un a traduit quelque chose de l'autre en français, l'autre a traduit quelque chose de l'autre en anglais, je ne me rappelle plus exactement quoi. Vous voyez, je donne un peu dans l'amateurisme. Mais en tout cas, c'était certainement de grands amis qui avaient une grande estime. Alors, il en est peut-être résulté cette idée étrange, et j'en parle parce que c'est de cela que je vais vous parler uniquement de ça, cette idée étrange qu'au fond, Pinget était un bon écrivain, mais un écrivain qui était une sorte de sous-Beckett. Le même sens du comique, l'absurde, avait un peu des mêmes thématiques, simplement que Beckett était génial et que Pinget faisait un peu moins bien, quoi. Alors évidemment, quand on se contente de faire un peu moins bien ce qu'un autre fait très bien, c'est comme si on ne faisait rien, n'est-ce pas? On voit ça dans tous les domaines artistiques et peinture, musique, etc. Or, ce qui me frappe moi personnellement, c'est que il y avait très longtemps que j'avais lu à peu près tout de Beckett et que je n'avais pas encore commencé à dire Pinget, car j'étais victime du même phénomène, un peu de méconnaissance, si vous voulez. D'ailleurs, je pense que à France 2, je crois que l'intervieweur de Nocturne et Culturel ne savait pas qui était Pinget, tout simplement, et que c'est la raison pour laquelle il l'a écarté. C'est l'hypothèse de parler de Pinget. Enfin, peut-être que j'exagère un peu. Ça serait à ce moment-là une sorte de vengeance, je dois l'avouer, que de dire cela. Mais enfin, ce qui m'a frappé dès que j'ai commencé à lire Pinget, et une fois que j'ai commencé à le lire, j'ai lu, je l'ai dévoré, c'est que on n'était pas du tout dans le monde de Samuel Beckett. On était dans des mondes qui avaient des analogas, des points comparables à l'autre, des points qui rappelaient de temps en temps. Qui rapprochaient l'un de l'autre, mais toujours sur un mode complètement différent, avec une plume complètement différente. On lit deux lignes de Pinget, on sait que c'est Pinget, on lit deux lignes de Beckett, c'est la même chose, évidemment. Mais on sait aussi très bien que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un monde littéraire tout à fait différent. Et celui de Pinget présente même des caractéristiques qui me paraissent, à certains points de vue, à certains égards plutôt, tout à fait différents, et voire opposés au monde suggéré, enfin au monde littéraire, suggéré par Beckett. Alors, j'ai résumé, enfin, je voudrais résumer ces différences. Alors, ça sera essentiellement ça dont je vais vous parler. Ces différences entre les deux, ces deux grands écrivains, sous deux aspects. Le premier aspect, ce serait un petit peu le site, c'est-à-dire où se passe l'action, y a-t-il une action, etc. Et où, de quoi est-il question et où est-on quand on est dans Pinget ou qu'on est dans Beckett. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'un et l'autre possèdent un sens du comique extrêmement aigu, une grande force comique, mais que cette force comique est très différente selon qu'il s'agit de Pinget ou de Beckett. Alors je vais commencer avec, si vous voulez, le site, et je ne dirais pas l'action, parce que alors pour l'action, c'est le premier point, site et action, mais action, je vais laisser tomber tout de suite cette action, parce que l'action, comme vous le savez, il n'y en a pas. Il n'y a d'action ni chez Beckett ni dans son théâtre, ce qui rapproche curieusement le théâtre de... Bon, c'est vrai que c'est un théâtre moderne où l'action ne joue pas le rôle qu'elle a joué pendant des siècles. Mais enfin, s'il y a un théâtre sans action, d'ailleurs, à propos de théâtre, il y a aussi un théâtre de Pinget. Mais ce théâtre ne représente pas, à mon avis, la partie la plus importante de son œuvre en dehors de autour de Bartin. Mais pour en venir au siècle passé, s'il y a un théâtre sans action, je ne vois que l'exemple de Marivaux. Il y en a probablement d'autres, mais je n'en vois pas d'aussi éminent et évident que Marivaux. Dans le cas des deux auteurs dont je vous parle, l'absence d'action ou la quasi-absence d'action est tellement évidente que je ne me permettrai pas de vous rappeler des choses que tout le monde sait. Donc c'est plutôt le site. Le site, quelque chose par le site, c'est le lieu où est censé, enfin le lieu entre guillemets, où est censé se passer la narration. Enfin la narration, c'est pas la narration non plus, puisqu'il n'y a pas d'action. Enfin, il y a tout de même une sorte de narration, bien entendu, dans les romans notamment, et puis aussi dans le théâtre, puisque dans le théâtre, il y a par définition une scène. Donc, on pourrait remplacer le mot d'action par scène, qui vaudrait aussi autant pour les romans que pour les pièces. Or, cette action, cette scène, est extrêmement particulière à Beckett et particulière aussi à Pinget. Et surtout dans la mesure où, justement, comme je vous l'avais laissé penser, enfin, elle me semble complètement s'opposer. Je dirais que le lieu, la scène beckettienne, est une scène abstraite, alors que la scène pingettienne, si j'ose employer le terme, est une scène entièrement concrète. Alors, commençons avec Beckett. Beckett, que ce soit dans ses romans, qui parfois évoque un paysage, un lieu un peu plus que la scène qui, pourtant, elle, montre le lieu. Quand il y a des poubelles en fin de partie, on voit bien les poubelles. On ne sait pas ce qu'elles font là, d'ailleurs, ces poubelles. Mais enfin, il y a des poubelles. Mais la scène beckettienne est toujours caractérisée par un écart total à l'égard de toute réalité quotidienne, de toute réalité concrète. Multiplier les exemples, je vous en ai deux ou trois. Pensons à... qu'est-ce que j'avais choisi comme exemple mais j'ai pas de lunettes, je ne pourrais rien... Ça fait penser à Verlaine, complètement ruiné, faisant une conférence à Londres. Et lui, ce n'était pas des lunettes qui lui manquaient, c'est plutôt quelques verres de trop qu'il avait dans l'estomac. Et après avoir débité son truc, son ami est venu ramasser, il y avait un silence glacial dans la salle, son ami est venu ramasser les feuilles. Oh, monsieur Verlaine a lu sa conférence à l'envers, n'est-ce pas? Bon, bref, il faut. Non, j'ai mes lunettes, donc je vais m'en servir. Qu'est-ce que j'avais? Bon, on peut penser à tout ce qu'on veut. Mais, enfin, bon, N'importe quoi. Bon, j'avais pensé à l'innommable. Dans l'innommable est une voix qui parle. C'est souvent le cas chez Beckett. Une voix parle, on ne sait pas quelle voix, on ne sait pas où, et on ne sait pas exactement de quoi, n'est-ce pas? Elle parle, et c'est plutôt le rythme et l'intonation de son cheminement mental qui fait l'objet du récit. Je pense par exemple « Oh les beaux jours », j'y pense parce que Jean-Louis Barrault, j'avais 18 ans ou 20 ans, nous étions à l'école normale, et on a été invité à parler de « Oh les beaux jours » qui venait de sortir à l'Odéon, sous la mise en scène, avec la mise en scène de Blin. Et Barrault nous avait dit, au fond, c'est d'une sonate pour voix seule. Et c'était très vrai, c'est vrai de tout Beckett d'ailleurs, mais c'est très vrai. Et en ceci que ce n'est pas une histoire qui raconte, une expérience qu'une voix raconte, mais c'est une sonate, c'est-à-dire un élément musical qui n'a de signification que par son intonation même et qui remplace au fond toute action, puisque cette action se limite à descendre de quelques centimètres pendant l'entracte, n'est-ce pas, sous terre. Bon. Alors, prenons n'importe quel exemple et nous verrons des sites qui n'ont pas de correspondance dans le réel, dans le quotidien, mais qui ont une correspondance dans la représentation qu'on peut se faire, symbolique, philosophique, de la condition humaine, tout simplement. Excusez-moi ce grand mot, il n'y en a pas d'autre. Alors, j'avais parlé de l'innommable. L'innommable est une voix, tout à fait comme celle de Haut les Beaux Jours, Maggie, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vini. Dans les Hauts Beaux Jours, c'est une voix qui parle. C'est une voix qui parle. On ne sait trop où elle est, ni d'où venue. En tout cas, le pire des cas est certainement celui de. Je ne voudrais pas vous parler trop longtemps non plus. Et que tout le monde s'endorme. Dans le cas de l'innommable, non seulement on ne saura jamais où il est, mais lui non plus ne sait pas. Puisque il dit à un moment, et c'est un des moments les plus drôles d'ailleurs, de Beckett, je voudrais bien vous dire. Où je suis, mais c'est que je vois rien. C'est très une atmosphère très. Il y a de la lumière, mais il y a aussi du brouillard. Je vois pas. Évidemment, j'aurais des idées plus précises si je pouvais disposer d'un bâton, un long bâton. Je pourrais voir si c'est résistant ou solide. Bon, bref, on est dans une scène ni imaginaire ni réelle, mais une scène qui n'a aucun rapport avec qu'un rapport avec toute scène concrète qu'on puisse imaginer. On sait seulement, nous dit l'innommable, que j'ai l'impression que je suis un peu au-dessus des choses. Il doit être surélevé sur une sorte d'estrade, mais il n'en est pas certain parce qu'il faudrait aussi un bâton pour vérifier qu'il est bien sur quelque chose. Ça me fait penser à un ancien directeur de l'école normale supérieure, Monsieur Flasselière, dont j'ai toujours eu l'impression, lors des deux entrevues que j'ai eues avec lui, un superbe hellédiste, traducteur de Plutarque, nous avons connu, mais qui était un peu court sur pattes, et j'ai toujours eu l'impression, c'est peut-être une impression, que lorsqu'il me recevait, les jambes étaient à l'air. C'est qu'il n'arrivait pas, il n'avait pas réussi à coincer l'équivalent d'un siège qui serait comme un tabouret de piano qu'on fait visser selon que. On veut avoir les mains au niveau de son piano, et qu'il n'était pas arrivé, n'ayant peut-être pas osé demander à un technicien de mettre la position adéquate. Alors, on parlait à quelqu'un qui n'avait pas les pieds sur terre. me semblait-il, il fallait réprimer les pincements de rire, par des pincements plutôt de rire menaçant. Donc, en voilà pour ce héros de l'innommable qui est un petit peu au-dessus, mais on ne sait pas de quoi, ni en devant de quoi. Une voix. Bon, une scène qui est complètement abstraite. Et on en dirait la scène la plus proche, un peu plus concrète, mais complètement abstraite, c'est celle de la pièce de théâtre qui s'appelle fin de partie, puisqu'on est dans une espèce de cahute, mais qu'autour, il n'y a plus rien. C'est effrayant. Rien. De temps en temps, il y a deux personnages, comme souvent dans Beckett. Hein, c'est un peu comme le modèle éternel de Don Quichotte. Il y a toujours Godot, il n'y a pas Godot, mais enfin, il y a Vladimir Estragon. Il y a, alors, je ne me rappelle jamais les noms, enfin, ils sont deux, un hein, à son fauteuil, alors, rivé définitivement, puis il y a un qui peut un peu marcher, qui va de temps en temps voir par la fenêtre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Rien. Donne-moi mes calmants. Il n'y a plus de calmants. Plus de calmants! Bon. Et là, c'est également une scène, un site qui n'a rien de concret, sinon peut-être qu'on peut l'assimiler à des espèces de scènes irréelles ou irréalistes dont on peut être hanté pendant certains cauchemars. Bon, pareil pour Oh les beaux jours, il y a du sable, un trou, une femme, un mi-corps dedans. Au deuxième acte, il n'y a plus que la tête qui ressort. Pas mieux, pas pire, dit-elle. Enfin, c'est tout de même un peu du pire à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est pas une scène qui puisse évoquer la moindre chose quotidienne ou concrète. Bon, je vais penser à des tas d'autres exemples. Il y a un texte qu'on lit moins souvent, c'est Le Dépeupleur. Le Dépeupleur, c'est un texte terrifiant, il ne faut pas lire ça avant de se coucher. Le Dépeupleur, c'est un cylindre quelque part dans l'espace, absolument fermé. Un grand cylindre, il y a tas de gens dedans. Hein. C'est un drôle d'endroit, on ne sait rien. C'est un cylindre fermé qui évolue, on ne sait pas où, dans l'espace, enfin, dans le non-être, dans l'espace. Et il y a des hommes, enfin, c'est un petit peu l'allusion à une métaphore de la condition humaine est un peu évidente. Elle est même quelquefois chez Beckett un peu cousue de fil blanc, si je peux dire ça sans me faire lyncher, n'est-ce pas? Mais, il y a trois catégories d'hommes qui habitent dans ce cylindre qui est le dépeupleur. Dans ce cylindre, imaginez une sorte de sous-marin sans sas, sans sortie, sans entrée. Enfin, vous avez lu comme moi. Et il y a des petites échelles le long des parois, et alors, par lesquelles les gens s'imaginent qu'ils peuvent peut-être sortir, enfin, ou monter, ou enfin, bouger, quoi. Alors, il y a une première catégorie monte, et puis. Voyant qu'ils ne peuvent pas avancer plus, restent accrochés. Une deuxième catégorie, les fait tomber, laisse-moi le passage, comme si on était dans une machine de téléski, hein, laisse-moi le passage sur l'échelle. Et la troisième, la plus intéressante à mon avis, est celle qui reste définitivement en bas, c'est-à-dire qui a renoncé. C'est pas la peine. On est là, on ne sera pas mieux ailleurs, c'est comme ça. Bon, alors il y a mille autres exemples. J'avais prévu, je crois, quelque chose. Le temps passe. Oui, simplement un mot pour dire que dans Godot, on est dans une scène qui est à peine plus concrète que dans les autres pièces ou les autres romans. Parce que dans Godot, on est un peu dans une forêt, si je me souviens bien, mais la forêt qui évoque Dante, bien entendu. Cette forêt est un petit peu un arbre on craint de se pendre, qu'on ne se pendit. Un arbre en tient lieu. Et cette forêt est un petit peu plus une hallucination de forêt qu'une forêt même. Alors voilà, je vous ai parlé de tout ça un petit peu longuement parce qu'il se trouve que chez Pinzu, c'est exactement, on passe du pôle Nord au pôle Sud, ou plutôt du pôle Nord à l'équateur. C'est-à-dire que autant l'un est dans une sorte d'abstraction figée, glacée, polaire, mais une abstraction où la métaphore est reine, autant chez Pinzu, on est au ras du quotidien, au ras de la terre, au ras des pâquerettes, dans le quotidien le plus désespérément quotidien. On est dans l'évier, dans la vaisselle. On fait la vaisselle, Et puis on s'en sort pas, n'est-ce pas ? Il n'y a pas moyen, parce que une des vertus fondamentales de Pinget, c'est une espèce de d'évocation de la du ressassement obsessionnel, et qui fait que le réel, loin d'être une espèce d'abstraction polaire, est une concrétude, si le mot existe, dont on n'arrive pas à se dépêtrer. On voudrait bien en sortir, mais il n'y a rien à faire. Non, il faut mettre le... Et de ce point de vue, quel que soit l'endroit, les villages de Touraine, de l'Inquisitoire ou des premiers romans de Pinget, quelle que soit qu'il s'agisse de la pension de famille miteuse d'une banlieue de Paris, on est dans le plus sinistre et le plus tangible des quotidiennetés et du congrès. Et du congrès, du concret, pardon. Faut que je vous fasse un peu. Mortain, c'est une sorte de local de police où quelqu'un subit un interrogatoire. C'est aussi le cas de l'inquisitoire, d'ailleurs. Inquisitoire. Alors bon, je vais peut-être pas, comme le temps passe, c'est que je voudrais vous dire d'autres choses sur le comique. Comme le temps passe, je vais me limiter un petit peu dans cette, pas m'étendre infiniment sur ce côté qui oppose Pinget et Beckett, c'est-à-dire la tête dans les étoiles ou dans le non-espace, on a un espace sans matérialité et qui est au contraire de l'espace de Beckett, qui est toujours de Pinget, qui est toujours un espace sinistrement commun, tu vois, mais dont Pinget tire des effets très très variés, parce que il est capable de vous parler pendant 300 pages de cette obscure pension de famille. Rendant le concret et le quotidien, le rendant intéressant par de tout autre procédé, évidemment. Alors, à propos de l'inquisitoire, je voulais vous faire une remarque, c'est que l'inquisitoire est un titre magnifique, mais on remarque tout de suite que c'est un mot qui mêle deux mots. Il y a le mot inquisition. Et c'est une inquisition, puisque il s'agit d'un domestique qui répond à deux policiers, un ou deux policiers, on ne saura jamais, et qui, dès les premiers mots du roman, demande oui ou non, répondez. Alors, la réponse du domestique, ça sera la même pendant 500 pages. Réponse du domestique, oui ou non, moi, pour ce que j'en sais, vous savez. Je veux dire, je débarque à leur service, là, tout faire. On peut dire, est-ce que je peux en dire du reste? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on se confie à un domestique? Mon travail, mais est-ce que j'aurais pu prévoir tous les jours le train-train, mais voyez-vous ça? Bon, bref, etc. Une espèce de ressassement obsessionnel est commencé, qui ne prendra fin avec les derniers mots de l'inquisitoire. Oui ou non, je suis fatigué. Mais bon, je reviendrai sur ce domestique qui est un peu important. Donc, il y a une inquisition, puisqu'on répond à des questions de policiers, apparemment. Mais il y a aussi, évidemment, le réquisitoire. Inquisitoire, c'est inquisition, et réquisitoire, et certainement beaucoup d'autres choses. Et ce qui est remarquable, c'est que, à mon avis, c'est que, ce faisant, Robert Pinget, auteur de l'inquisitoire, reprend à son compte un des procédé littéraire de son roman et en même temps un des tics du domestique. Car ce domestique, dont on ne saura jamais le nom, pas plus qu'on ne saura aucun nom d'ailleurs, le domestique a une connaissance du français extrêmement insuffisante qui lui fait faire des pataquès, ou ce qu'on peut appeler aussi des cuirs, des fautes de langage, ou le fait de confondre deux mots est très fréquent. Au lieu de parler d'une église désaffectée, il parlera par exemple d'une église désaffectée. Ce que c'est qu'une église désinfectée. Il y avait une épidémie probable, dit-il. Mais une épidémie devient épidermie, n'est-ce pas ? De même, les fourberies de Scapin deviennent les foutreries d'Escarpin. Ces messieurs, c'est-à-dire mes patrons, organisaient les foutreries d'Escarpin. Je vous donnerai encore un autre exemple, mais ils sont tous très drôles. Mais c'est toujours sur le modèle inquisitoire, sur le fait que la célèbre... Ils avaient une reproduction d'une célèbre statue romaine, qui est vraiment très célèbre, effectivement, qui s'appelle l'Apollon l'Apollon du Belvédère, je sais moi. Je crois qu'elle est à l'ambassade de France, je me trompe, non. Au Palais Farnèse. L'Apollon du Belvédère devient l'Apollon du Réverbère. C'est-à-dire de quelqu'un réduit à faire le trottoir. Bon, il y a mille exemples comme ça, j'y reviens tout à l'heure. Et puis, je voulais observer aussi, avant de passer à un deuxième point, qui sera le dernier, c'est que pour exprimer cette manière que cette espèce d'englument de Binget dans le quotidien, qui l'empêche d'en sortir chaque fois, qui est d'ailleurs un peu comparable à l'englument de Beckett, mais alors pas du tout dans le quotidien, dans une espèce d'impossibilité d'agir, dans une espèce de monde cauchemardesque et un peu abstrait, et dont on ne se vante pas non plus, mais il ne s'agit pas du tout du même monde. Pour ce monde dont on ne peut pas se défaire, j'ai pensé à un exemple littéraire qui est celui de Mallarmé et surtout Le Cygne. Vous savez, Le Cygne, c'est un des poèmes les plus connus de Mallarmé. Et Le Cygne, c'est une poésie dans laquelle un magnifique cygne, le bel, le vierge, le vivace, ou le bel aujourd'hui, etc., va-t-il nous déchirer avec un goût des livres, etc., etc. Et il y a un moment, alors le cygne rêverait que de partir, mais il est pris dans l'évier, si je puis dire, puisque je parlais d'évier tout à l'heure, et je ne voudrais pas faire l'âne savant, mais enfin, il faut citer tout le quatrain, tout son cou se courra cette blanche agonie, je saute de vers que je fuyais, tout son cou se courra cette blanche agonie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Hein, c'était bizarrement ce poète aussi éloigné du quotidien qu'est Mallarmé, puisque son but poétique est de suggérer des objets qui n'existent pas, l'existence d'objets qui n'existent pas. Eh bien, au moins par ce vers là il a quelque chose de commun avec Binget. Bon, j'ai fini et je vous parle un petit peu maintenant du comique. Alors, bien entendu, on peut discuter sur l'importance du comique chez Beckett, chez Binget, et on peut aussi discuter sur l'importance du comique de toute façon. Et c'est un fait que... Et puis on peut aussi discuter sur la question de savoir si le comique qui vous fait rire chez Binget est le même ou très différent de celui qui vous fait rire chez Beckett. Alors, sur le premier point, sur le comique en général, je dirais très rapidement que s'il y a une sous-estimation actuelle de Binget, il y a aussi, depuis le commencement des temps, quelque chose comme une sous-estimation du comique. Le comique, me semble-t-il, apparaît comme une qualité annexe d'un créateur et surtout du créateur littéraire. Et peut-être même de la comédie ou de la comédie musicale, enfin pas de la comédie, mais de la comédie, du film comique. C'est un fait que, puisque nous sommes dans l'actualité cannoise, je ne me rappelle pas avoir vu le jury de Festival de Cannes n'avoir jamais décerné une palme d'or à un film comique. Comme si le sérieux allait plus loin, était plus profond, en disait plus. Et comme si, que le comique, et comme si le comique était une vue un peu optimiste, superficielle, de notre état, alors qu'il en va, à mon avis, tout à fait à l'opposé, et qu'il n'y a rien de tel que le comique, enfin, beaucoup l'ont dit aussi, bien entendu, pour rendre tout ce qu'il y a de tragique, précisément, dans toute chose, dans la vie en général, à tel point que les deux qualités littéraires les plus éminentes sont la puissance tragique et la puissance comique, et qui sont, à mon avis, deux expressions de la même chose, au fond. Ils sont l'expression de la chose la plus profonde. Et qu'un auteur dénué de ces deux qualités-là est inévitablement un auteur, à mon avis, du second rayon. Alors, bon, je ne veux pas citer de noms, hein, mais enfin, disons Céline tout de même, on peut être horrifié, mais en même temps être sous la table de rire. Et je citerai aussi un roman qui n'est aimé que de ses fanatiques, c'est-à-dire Malcolm Lowry au-dessous du volcan. Enfin, ceux qui aiment ce livre le mettent au-dessus de beaucoup, beaucoup d'autres livres. Et il est certain que la dimension tragique de cet livre et la dimension cocasse, ils sont constamment, inextricablement mêlés. Et cet élément comique faisait dire à Jérôme Lindon, directeur de Minuit, faisait dire ceci, je le tiens par sa fille Irène, je ne le savais pas, mais faisait dire une chose qui m'a beaucoup frappé. Il disait, heureusement que très peu de gens ont compris que Beckett était un auteur comique. Sinon, il n'aurait jamais fait de carrière. Et je crois qu'on pourrait le dire pour aussi un certain nombre d'auteurs contemporains. J'avais une autre histoire. Ah oui, j'avais dit moi-même à Lindon, une des premières fois que je l'ai vu, à Jérôme Lindon, et comment est-ce que ça se fait que on n'insiste pas sur le... Je me rappelle, par exemple, j'ai été au Haut les Beaux Jours, et j'avais remarqué que tout le monde écoutait ça comme l'évangile. Alors que moi, je me retenais pour ne pas m'esclaffer de rire, tellement c'était drôle à tout instant. Et j'avais d'ailleurs eu l'interview avec Jean-Louis Barrault et avec l'actrice, donc, qui était elle... Madeleine Renaud, et je lui ai dit, mais les gens ne rient jamais. Et elle m'avait dit, de temps en temps, il y a certaines salles, quand ça part, bon. Mais visiblement, et bien, si je m'étais à rire, tout de suite, chut, bon, c'est exactement la même chose que si vous alliez voir les Fourberies de Scapin, alors pas les Foutreries, hein, mais les Fourberies de Scapin, très bien joués, très drôlement joués, et qu'on vous reprit, si vous vous mettez à rire, n'est-ce pas? Comme si c'était un peu porter atteinte à l'importance de l'œuvre que d'en rire, alors que justement toute l'importance réside dans le rire et la profondeur de ce rire. Et alors j'ai demandé Jérôme Lindon avait dit, mais oui, il ne m'avait pas dit ce qu'il avait dit à sa fille, que ça lui a répété, c'est-à-dire heureusement que personne s'en aperçoit, quelques privilégiés. Mais il m'avait dit, mais oui, bref, c'est la première chose. Il m'avait raconté des anecdotes personnelles. Vous savez que Samuel Beckett a présenté à la fois Molloy, le roman, et Godot, à Gallimard. Et à, je crois, deux autres éditeurs qui ont tous refusé. Et chez Gallimard, j'ai le plaisir de pouvoir vous... Bon, vraiment, alors là, c'est ce qu'on appelle être un cafeteur. Hein. Mais j'ai le plaisir de savoir, et je vais vous le dire, le nom du lecteur de Gallimard qui a refusé Samuel Beckett. Il s'appelait Albert Camus. Et son avis l'a emporté. Ça a été un remords perpétuel, évidemment, pour Gallimard. Bref, quant à Jérôme Lindon, il m'a dit, moi, j'ai commencé à regarder ce manuscrit de Molloy. Vous savez qu'il commence par « Je suis dans la chambre de ma mère ». C'est moi qui suis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Seul, on m'a sûrement aidé. Seul, je ne serais pas arrivé, etc. Et il m'a raconté qu'il a commencé à lire ça dans l'ascenseur de la RATP qui relie les lignes du bas des lignes du haut de la station La Motte-Piquet-Grenelle. Et il y a toujours beaucoup de monde à sa sortie ou aux heures de fermeture du bureau. Et il m'a dit, mais j'ai été saisi d'un tel éclat de rire en lisant ce début de Molloy que toutes les pages sont répondues par terre. Vous avez déjà la scène, 15 personnes dans la... C'est comme ça qu'a commencé la fortune littéraire de Beckett, puisque c'est à la suite de ça que les Agents de Minuit ont publié, et n'ont cessé de publier Samuel Beckett. Bon, alors, ce sont des réflexions un petit peu sur le comics. Je ne sais pas si je voulais vous en dire davantage. Il arrive très souvent qu'un comique très inférieur puisse paraître plus acceptable dans la mesure où on se figure qu'il vous apprend des choses plus profondes et que à ce moment-là, le comique soit prêté à des gens qui ne sont pas tellement comiques, qui se retrouvent dans la Pléiade néanmoins, et à des gens dont, en somme, l'opinion courante est que c'est vraiment très drôle, puisque justement, c'est pas drôle, comme c'est facile d'être drôle. Mais là, ça va loin, c'est sérieux. Hein, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Et je le dis à l'exception de certaines pièces de jeunesse qui sont d'un très très haut comique, en revanche. Bon, alors, pourquoi est-ce que le comique, j'en terminerai là-dessus, pourquoi est-ce que le comique de Paget et de Beckett sont, à mon avis, tellement différents? Eh bien, je dirais que c'est les procédés comiques, infiniment comiques, que je ne discute pas, la force comique de Beckett. Mais son tour est, en général, de même que son site est dirigé un peu vers l'abstrait, je dirais que son site, à lui, est dirigé plutôt vers le logique, ou l'illogique qui gît dans le logique. Je veux dire par là qu'il y a toujours un côté calculateur, dans le rire, pas calculé, mais un côté calculateur et qui est drôle par le fait que c'est un calcul inutile. Le sous-titre du mariage des noces de Figaro, le mariage de Figaro chez Beaumarchais, c'est la précaution inutile, à moins que ce soit chez la Ponte, je ne m'en rappelle plus. Bon. Mais là, je dirais, c'est toujours le calcul inutile, la précision. Précision inutile. On apprend sans cesse dans Beckett des choses du genre, Molloy, je pète trop. C'est également une des choses très drôles de Beckett, c'est sa façon d'être absolument, c'est un aigle, c'est hautain, c'est l'aristocratie même de la littérature. Et en même temps, brusquement, un mot issu du vocabulaire le plus commun et même parfois le plus scatologique. Et parce que bon, lui, dans Molloy, la première partie, celle qui met en présence Molloy, puisque la deuxième partie, c'est Morand à la recherche de Molloy. Et à un moment, Molloy dit mais au fond, c'est vrai que enfin, quelqu'un lui va faire barquer qui pue, ou je sais pas quoi. C'est un peu un SF, enfin, comme il y a souvent dans les romans, et aussi d'ailleurs les pièces de théâtre, puisque on vit parfois dans les poubelles, comme les parents des deux héros de fin de partie. Je pense aussi à un autre roman de jeunesse dont le titre m'échappe. Donc, à un moment, Molloy se dit, mais il y avait un peu raison, c'est un fait que je pète trop. D'abord, vous remarquerez l'absurdité du propos, de toute façon, parce que qu'est-ce que ça veut dire trop péter, n'est-ce pas? Ça peut vouloir dire quelque chose par quelqu'un qui dort dans le même compartiment de chemin de fer, oui, ça peut avoir un sens. Mais pour soi-même, après tout, hein, trop péter, c'est même, on ne pète, quand on est atteint, comme certains dont je suis, à des crises rares mais très violentes d'aréophagie, le paix est l'unique... l'unique vœu, l'unique soulagement, l'unique remède, n'est-ce pas ? Et l'euro également un peu. L'euro et le paix. Bon. ça ne veut rien dire, je pète trop. Mais c'est également, ce qui est également très drôle dans le fait que je pète trop, c'est que il se met en tête de vérifier s'il pète trop vraiment. Ouais. Scientifiquement. Je vais voir si c'est vrai que je pète trop. Et alors, pour savoir le nombre de ses pets, à la minute, enfin en moyenne, on fait une péréquation. Il entoure son corps, comme justement les SDF souvent, quand il fait froid, hélas, entoure leur corps de papier de journaux. Beaucoup de papier, beaucoup de l'aurore, non, ça n'existait plus. Plus loin, les journaux, quoi, les journaux. Et il faut mettre pas mal, hein, et serrer pour qu'on entende bien. Bon. Entre parenthèses, je crois que j'ai essayé de bien procéder, non pas pour mesurer le nombre de mes pets, mais je crois que l'adolescent, il m'arrivait de coucher un sac de couchage en altitude et avoir un froid épouvantable, ce froid qui est le premier ennemi du sommeil. Et je vais vous dire que vraiment, il faut en être réduit, parce que c'est pas terrible, hein, le papier pour vous réchauffer. Pour faire un feu, peut-être, mais pour vous réchauffer, c'est pas terrible. En tout cas, pour compter les pets, c'est très commode. Et ça, il a sa montre, je sais pas combien de temps. Ah bon, alors, une minute, 14, tant de pets. La minute suivante, tant de pets, pendant 10 minutes, à chaque minute, il compte, et puis il fait la péréquation. Donc, en gros, je pète tant de fois par minute. Mais c'est pas tellement, se dit-il. C'est pas tellement. Les idées qu'on se fait comme ça. Je pète exactement 7 pets par minute, c'est rien. une analyse d'un laboratoire de cochon, n'est-ce pas ? Ce que c'est que les idées que les autres vous mettent dans la tête. Et puis, ce que c'est utile, les mathématiques. Ça vous sort de plus d'un mauvais pas. Eh bien, c'est tout à fait vrai, Beckett. Il y a de très nombreuses occasions où tout s'achève dans un calcul. Et un calcul toujours inutile. Alors, j'ai parlé de Molloy, dans un texte qui a été publié en même temps que Molloy dans la première édition française, qui s'appelle L'Expulsé. Molloy est expulsé d'un petit manoir confortable où il avait trouvé refuge. Il était expulsé par un coup de pied au cul. Alors, la première ligne, c'est paf! Le coup avait été bien envoyé dans les fesses, hein, mais pouf, je me suis retrouvé déjà dans l'herbe, au-delà de l'allée, au-delà du truc. Et pourtant, le perron était haut. Du coup, je me suis mis à vérifier la hauteur du perron pour pouvoir dire, voilà, on m'a jeté de tant de marches. Il y a plusieurs pages où ils expliquent qu'ils mesurent le perron, tout le monde se fout. Et je ne peux pas parce que je ne sais jamais si... Il faut compter un en montant sur la première marche ou il faut compter deux, n'est-ce pas ? Et même problème en arrivant au palier. Est-ce qu'il faut compter le palier ou ne pas compter le palier ? Donc, incertitude mathématique épouvantable. Il ne saura jamais, il sait qu'il a été expulsé de belle et bonne manière, mais il ne saura jamais de combien de marches, enfin. Alors, je vous rappelle, puisqu'on est à Molloy, les pierres à sucer, n'est-ce pas ? Pour se désennuyer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il met 5 pièces dans la poche droite, 5 pièces dans la poche gauche. Il s'agit de sucer les pièces de la poche droite et de mettre la pièce sucée dans la poche gauche, de prendre une pièce de la poche gauche, etc. Et de s'assurer que, ainsi, toutes les pièces auront été sucées et qu'il y aura autant de poches sucées provenant de la poche droite dans la poche gauche que de pierres sucées de la poche gauche dans la poche droite. Et ça dure 10 pages, hein. Et finalement, il dit bizarrement, je finis par me lasser de cette occupation que je trouvais sans utilité. Enfin. Comme si on ne s'en doutait pas un petit peu. Bon, alors il y a d'autres exemples. Alors ça, c'est le côté, si vous voulez, bon, les pierres à sucer. Bon, c'est le calcul à vide, le calcul inutile, Est-ce que j'ai noté d'autres? Non, je crois que je vous ai dit à peu près de tout. Il y a d'autres procédés du comique dans Beckett, il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a aussi celui de la... Je vous avais parlé de la logique qui finalement ne vous tire... La logique, mais qui ne vous tire pas d'embarras. Les mathématiques pour l'épée, oui, peut-être. Mais la logique elle-même fonctionne... L'hésitation, alors là, c'est un point commun tout avec Beckett, puisque qui dit obsessionnalité, et c'est le cas chez Pinget, je veux dire, dit aussi doute, incertitude, à jamais. Mais il est certain que cet élément existe un tout petit peu, et parfois chez Beckett, par exemple, lorsque la logique se révèle insuffisante pour dédouer un problème. J'avais noté un truc à ce sujet. Oui, je veux dire que le, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des aléas de la logique qui butent contre l'impossible et qui a une autre forme, grande forme du comique chez Beckett, c'est-à-dire d'annoncer quelque chose très d'évident, de sûr, et puis finalement, non. On bute sur un mur, quoi. Il y a rien. Oh, il y a un coup de téléphone, en tout cas. Bon, et alors, je donnerai comme exemple, dans Murphy, cette fois-ci, Murphy, bon, un autre personnage antérieur à Molloy, demande à l'horoscope de le renseigner sur lui. Il fait son horoscope, c'est déjà assez drôle, d'ailleurs. Pas un personnage comme imaginant Molloy ou bon, faisant son horoscope. On pourrait imaginer d'autres personnes plus connues, évidemment, faisant leur horoscope, d'ailleurs. Bon, et alors, une langue magnifique, l'obésité du cancer par rapport au tropique, indique que le sujet, avec un S majuscule, il avait écrit en anglais, mais c'est écrit en français, chez le sujet, une profonde propension à ceci, à cela, à cela. Et pourtant, mais en même temps, pourrait bien signifier le contraire. Et l'exemple le plus remarquable, c'est le lion dans l'obésité de Saturne, j'y connais rien évidemment, indique à coup sûr une très vive propension, c'est le sujet, à agir. Point virgule. Et pourtant, non. On ouvre une porte. Autre aspect du comique de... Mais alors, il n'en va pas du tout de même. Pas du tout de même chez Pinget. Chez Pinget, ce qui est cocasse, pas particulièrement cocasse, c'est une espèce d'absurdité inhérente au quotidien, aux choses même qui se passent de tout raisonnement, qui est, c'est la tessiture même du réel, du quotidien, dans ce qu'il y a de plus quotidien, qui vous plonge dans une espèce de marasme dont il est à peu près aussi impossible de sortir que de sortir de cette sinistre et hilarante pension de famille qui est le lieu où se passe quelqu'un. Et effectivement, alors ça, je vais raconter mon premier contact avec. J'avais pas lu Pinget parce que j'avais pas le temps. Je lisais d'autres choses. On n'a pas le temps de tout lire et j'étais victime d'une fausse idée sur Pinget. Et un jour, je me suis retrouvé dans une à Draguignan. Malheur celui qui se retrouve sans rien à faire à Draguignan. Je vous assure, c'est digne de faire la matière d'un roman publié par les éditions de Minuit. Il y a un dolmen. Il y a un dolmen. Mais il est très beau. Mais bon, il faut le trouver d'abord, ce qui est long. Et ensuite, il n'y a rien en dehors du dolmen. Donc, j'étais chez des amis que je ne connaissais pas. Et chez des gens qui m'emmerdaient, quoi. Bon. Et j'avais rien à leur dire. Et j'attendais l'heure du train qui pouvait m'amener à Nice. Et je regarde s'il a des livres. Alors il avait. C'était un lieutenant de l'infanterie. Enfin, ouais, mais il n'y avait pas de voie vraiment militaire. Il y avait quelques-uns. Puis il y avait des choses un petit peu techniques. Puis il y avait beaucoup de romans policiers, quelques bandes dessinées. Et un roman de Pinget, quelqu'un. Bon, évidemment, je lui ai dit, je vais lire ça. Enfin, je vais lire Pinget. Alors, je lis, ceci. Premièrement, cette première phrase a été telle que je me suis pas arrêté. J'ai emporté le livre dans le train et après j'ai lu tout mangé. La première phrase est donc celle-ci. Il était là, ce papier, sur la table, à côté du pot. Il n'a pas pu s'envoler. Bon, déjà ça, j'ai commencé à rigoler. Parce que quand vous ouvrez au hasard un livre, un roman contemporain, vous ne lisez pas ça. Que ce papier était là, il ne s'est pas envolé tout, même, tout seul. La suite, vous l'indiquez que je voulais lire. Et un roman, vous allez à la FNAC, vous ouvrez un roman, qu'est-ce que vous lisez? Si je devais improviser, je dirais Isabelle laissa tomber sur son sofa le livre qu'elle tenait entre les mains. À quoi bon tout cela, murmura-t-elle. Le soir tombait. L'orage annoncé semblait s'éloigner vers le nord. Bon, on n'a que le temps de refermer le bouquin. Bon. Et qui tombe à terre aussi vite que le livre d'Isabelle est tombé sur son sofa. Or là, bon, c'était extraterrestre. C'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Et je n'ai pas arrêté, j'ai eu raison, parce que est-ce qu'elle a fait de l'ordre? Est-ce qu'elle a fait de l'ordre? Une petite pointe misogyne, voilà. Mais ça, j'ai pensé, ça arrive. Bon, est-ce qu'elle a fait de l'ordre? Est-ce qu'elle l'a mis avec les autres? J'ai tout regardé. J'ai tout trié. J'ai perdu toute ma matinée. Impossible de le trouver, le bout de papier. C'est agaçant, un garçon. Je lui ai dit ça depuis des années, de ne pas toucher à cette table. Ça dure 2 jours, où ça va bien, et le troisième, elle recommence. Je ne retrouve plus rien. Il paraît que c'est partout la même chose, dans toutes les maisons, dans tous les ménages. Alors, il faudrait supprimer les bonnes ou les femmes. Moi, je m'en passerai. Deuxième petite sensation ce soir. Moi, je m'en passerai. J'ai mes petites affaires. Il ne précise pas lesquelles. J'ai mes petites affaires. Mon petit travail. Je peux me passer de tout le monde. Je peux vivre seul. La bouffe, ce n'est pas compliqué. Et le reste, ça n'existe pas. Il n'y a que le travail qui compte. Puis, brusquement, la bouffée de colère reprend. C'est vrai, ça. Se laisser emmerder toute la vie par des personnes qui mettent en ordre vos papiers. On voit déjà, on est dans un autre univers. Hein. Vous voyez que ce n'est pas du tout Beckett. On est dans l'évier, si j'ose dire. Il va y passer 3 jours. Là. Et ça va être comme ça pendant tout le roman. Alors, il aurait fallu que je m'arrange autrement. Mais voilà, on est embringué dans l'existence. Embringué, comme le cygne est pris dans la glace. On est embringué dans l'existence, ce qui n'est pas le cas de Beckett, n'est-ce pas ? On ne sait pas seulement comment. On se trouve embringué dans l'existence, on ne sait pas seulement comment. Oh, je n'ai pas l'intention. Oh, c'est moi qui joue. Je n'ai pas l'intention d'en parler de mon existence. Mais probable qu'il va falloir. Il va donc être obligé de parler de son existence. C'est d'un inintérêt, d'un plat. Ça va être confirmé par la suite. Je vais vous dire. Bon, alors, il est temps d'aller de l'avant et vers la fin. Je dirais que, si vous voulez, le monde, autant le monde enfin, le comique du monde de Beckett est un petit peu métaphorique, logique, et illogique à la fois, etc. Alors que celui de Paget vous ramène absolument sur Terre, dans le plus banal des quotidiens, mais un quotidien qui finit par être plus angoissant et agaçant, comme dit, reprendre le mot de Pinget, que tous les sujets d'angoisse qu'on peut trouver en lisant Beckett. Alors, si je pouvais aller, voyez-vous, il faut que je termine, il est de grand temps que je termine, une qualité que je trouve merveilleuse chez Pinget, c'est que on est complètement dans le brouillard. Même lorsqu'on est dans une petite pièce, une petite pension de banlieue, vraiment le lieu le plus repérable, banal comme des WC de train, enfin, eh bien, on est complètement égaré. On ne s'y retrouve pas. C'était pas comme ça. Ça a changé. On est pris dans une espèce de marasme, de petites choses collantes, un peu comme ces pansements qui viennent toujours se ficher sur le nez du capitaine Haddock et qu'on n'arrive pas à retirer. Et il en résulte une impression d'incapacité. Alors, ce qui est beckettien, mais par un tout autre tour, comme dirait Pascal, un autre tour de folie, par un tout autre tour qui est être égaré, pas parce qu'on est effectivement égaré comme l'innommable, mais parce qu'on est égaré dans la surface la plus quotidienne, la plus simple. On est égaré déjà tout de suite sur Terre, pas quand on réfléchit à la métaphysique, etc. Et cet égarement me paraît, alors c'est peut-être assez personnel, mais cet égarement constant me paraît posséder une grande force comique, peut-être parce que elle touche plus profondément que toute autre chose à notre véritable vérité, c'est-à-dire que au fond on est toujours un peu perdu. Et alors se montre, j'ai donné des exemples de quelqu'un, d'autres romans pourraient venir en exemple, et qui est particulièrement signalé par le monde du domestique de l'inquisitoire, celui qui parle tout le temps. Oui et non, répondez. Oui et non, c'est facile. Ces messieurs ne disaient pas tout, c'est le domestique des patrons. Et on voit, à sa pauvreté de vocabulaire, à ses fautes de français, que ce type vit, ne croyez pas du tout que ça soit quelqu'un qui veut se moquer des gens qui ne savent pas parler français ou qui, des gens simples, quoi, qui ont une vie comme le marat de terre. C'est pas ça du tout. C'est le portrait de Pinget lui-même. C'est le portrait d'un homme égaré. Il n'a pas les mots, il n'a pas les repères, il n'a pas les connaissances suffisantes pour ne pas être complètement égaré dans sa maison même où il est domestique depuis 40 ans. On lui demande pendant 500 pages, on lui demande, mais qui était au fond vos patrons, qu'on soupçonne un peu de meurtre, je crois. Mais enfin, bon, on ne saura jamais. Ah, vous savez, moi, ces messieurs, ils appellent toujours ces messieurs, mais ils ne disaient pas tous, mais ces messieurs, on ne saura rien en 500 pages. Il a vécu pendant 40 ans devant eux, avec eux, il est incapable de dire s'il y avait une moustache ou. C'est le monde est tout à fait. C'est le même monde que celui de l'innommable, si vous voulez, invisible, on ne peut pas se. Mais par un tout autre tour, par vraiment des moyens qui sont diamétralement opposés et il va s'en dire évidemment tout à fait différent. Est-ce que j'avais un mot à dire encore? Je ne pense pas. Bon, voilà. Un tout dernier mot, c'est alors sur le plan littéraire, j'ai toujours été frappé aussi par un fait, ça prendra 30 secondes. Par le côté l'aisance de l'écriture, on a l'impression que c'est un robinet qui. Il n'y a pas une hésitation, en fait, c'est la certitude. L'écriture la plus simple, la plus directe, la plus aisée qui soit, comme un torrent d'eau fraîche dans les Alpes. Et en même temps, on se persuade que c'est juste un énorme travail. C'est un énorme travail. Simplement, je crois que Benjet possède plus que les autres l'art de ne pas laisser trace, l'art de retirer les échafaudages, d'enlever les plans. Reste le résultat du travail, il ne reste plus aucun signal du travail. Je terminerai, alors là j'avais prévu, c'est pour faire un grand effet de scène, j'avais prévu de vous citer un mot qui pour moi résume beaucoup de grandes œuvres, mais notamment celle de Pinget, cacher l'art par l'art même. Cacher l'art par l'art même. Vous savez de qui est cette formule? Je crois un peu que personne ne le saurait. Si vous le savez, non? Non, c'est de Jean-Baptiste Rameau. Voilà, ben, je vous remercie, vous avez été très gentil. Ouais. On va avoir droit à un film, reposer. Oui, à propos, un dernier mot, malheureusement, à propos du film. Je n'offense personne ici, puisque ce n'est personne ici qui l'a fait. Ce film était intéressant, vous le verrez. D'autant plus qu'on y voit des images, un Paget très jeune, des photos de famille. Mais il y a aussi beaucoup d'interviews de gens très connus qui parlent de Pinget après sa mort, souvent, et sur des noms extrêmement connus, notamment un peu des gens de l'équipe de Minuit, quoi. Or, vous remarquerez une chose qui m'a frappé, c'est que personne ne fait allusion une seconde à la vertu comique de Pinget. Ça n'existe pas.